Vous écoutez France Culture.
Le journal était signé Anne-Laure Choin et nous la retrouverons pour une nouvelle édition à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Et moi je dis que quand un journaliste il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Le problème, c'est de se confirmer les sources, de les vérifier. Moi, j'avais un maître, c'était Jacques de Rogy, qui disait « La source unique, c'est la fin des haricots ».
Il faut absolument que le secret des sources soit protégé correctement en France, c'est-à-dire qu'il soit totalement protégé.
Évidemment que nous pouvons être l'objet de manipulations. Évidemment que l'anonymat peut poser problème.
Moi, je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que j'ai l'impression qu'il vous manque quand même un chouïa de sources. Voilà, c'est ça qui me gêne.
Bienvenue à tous dans les coulisses de l'information et comme toujours vos commentaires sont les bienvenus tout au long de l'émission sur franceculture.fr avec ce matin dans les coulisses de la régie Vincent Abouchard, Théo Gomard et Mathias Mégy, c'est le secret des sources sur France Culture. Cet après-midi, l'Élysée va donc accueillir un mini-sommet africain sur la situation dans le nord-est du Nigeria après l'enlèvement par le groupe islamiste Boko Haram de plus de 200 lycéennes. Mini-sommet qui est aussi la conséquence d'une vaste mobilisation internationale dans laquelle les médias ont joué et continuent de jouer un rôle ambigu, à contre-temps, en tout cas à la remorque des réseaux sociaux. Ce matin, nous allons donc essayer de décortiquer les ressorts et les insuffisances du traitement médiatique de cette affaire, une affaire qui en réalité a débuté il y a un mois, mais n'a pris son envol médiatique que depuis 10 jours. Avec nous, Cédi Kabar, rédacteur en chef à Jeune Afrique, Vincent Hugeux, grand reporter à L'Express, et Raoul Mbog, journaliste à Slate Afrique. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et en notre compagnie également, bien sûr, l'homme du multimédia, Éric Chavroux. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et le sociologue des médias, Jean-Marie Charon. Bonjour.
Bonjour.
Des jeunes filles forcées à réciter le Coran, Boko Haram les présente comme les lycéennes enlevées dans deux écoles les 14 avril et 4 mai derniers au Nigeria. La secte islamiste affirme les avoir converties à l'islam et relâchera les musulmanes seulement contre des prisonniers du groupe.
Extrait d'un sujet vidéo de l'agence France Presse le 4 mai dernier. L'agence France Presse qui est avec Radio France Internationale le seul média à posséder, le seul média français bien sûr, à posséder des journalistes en permanence à Lagos. Le Nigeria, c'est 175 millions d'habitants, près de 3 fois la population de la France. Beaucoup de pétrole au sud, beaucoup de pauvreté notamment au nord-est. Là où sévit Boko Haram, cette secte islamiste aux dérives gangstéristes. Le 14 avril dernier, elle a donc enlevé 276 lycéennes dans la ville de Chibok. Un peu plus de 200 sont toujours détenus aujourd'hui. Et au début, le sujet n'a pas fait une ligne, pour faire simple, dans les grands médias en tout cas. Ce sujet, et on est là en présence d'un cas de figure très intéressant, il émerge à partir du 23 avril. Et la création d'un mot-clé sur Twitter, d'un hashtag, comme on dit en anglais, « Bring back our girls », »,« Ramenez-nous nos filles ». Est-ce qu'on peut dire, Cédi Kaba, Vincent Hugeux, Raoul Mbog, que le sujet naît sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Raoul Mbog?
Ah ben très clairement, le sujet naît sur les médias sociaux, enfin à partir de là en tout cas. Et je pense que, comme vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, il est évident que les médias ont été, sont d'ailleurs encore à la remorque hein, par rapport à cette histoire. Mais tout ça a une explication simple, c'est que depuis, en tout cas du point de vue, on se place du point de vue des médias occidentaux, c'est que depuis très longtemps que Boko Haram, depuis une dizaine d'années, hein, que Boko Haram commet des crimes absolument fous au Nigeria, en réalité, on a fini par un peu par s'habituer. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, encore une autre attaque, encore un autre crime, et finalement, ça passait un peu comme ça, sans qu'on ne s'y intéresse plus que ça. Et donc, il a fallu simplement qu'il y ait un tweet demandant justement, enfin, alertant l'opinion sur cette histoire qui est tout aussi grave d'ailleurs hein, que ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années au Nigeria. Mais très clairement, c'est vrai que oui, on a été à la remorque. Quoi.
Vincent Hugeux, pas tout à fait d'accord, j'avais l'impression.
Non, je ne partage pas cette analyse.
C'est pas une naissance du sujet sur les réseaux sociaux ?
Je ne crois pas. Écoutez, pour ceux qui, c'est mon cas et Dieu merci, je ne suis pas le seul, suivent et couvrent l'actualité du nord du Nigeria depuis une dizaine d'années, je me suis rendu
vous
en
êtes pas très nombreux en France à le
dans
faire.
Les
vous
États le faites, du Nord à plusieurs reprises. Nous n'avons pas attendu ni l'impact émotionnel de ces initiatives de people, acteurs, chanteurs, etc., ni la caisse de résonance des réseaux sociaux dont, par ailleurs, je ne mets estime absolument pas ni les vertus ni la puissance pour nous pencher sur la problématique de Boko Haram. Et je pense que il nous sera loisible dans quelques instants de réfléchir aux effets pervers de la pipolisation de la campagne pour parfaitement légitime d'ailleurs pour la libération de ces jeunes lycéennes.
Je suis relativement d'accord avec Vincent. Le sujet n'est pas à partir du moment où les réseaux sociaux s'en sont emparés. Dès l'enlèvement des filles, deux ou trois jours après, la presse locale en a parlé. Elle n'a pas eu l'écho qu'il aurait eu. Il faut aussi dire.
Pas les grands médias occidentaux, c'est ça que je veux dire. Occidentaux.
Mais c'est peut-être de ça qu'on parle en réalité.
Les grands médias occidentaux, on ne peut pas dire qu'ils ne se sont pas intéressés, mais ça n'a pas pris l'ampleur du fait de leur légitimité médiatique. Quand les people sont rentrés, ça a pris toute la résonance que ça a pu avoir. Mais le sujet avait déjà été évoqué. Et à la décharge des médias occidentaux, il faut dire que le gouvernement du Nigeria a eu une attitude ambiguë au moment de l'enlèvement. Il a tardé à reconnaître. Ensuite, il n'a pas voulu qu'on en parle assez. Donc, tout cela a contribué à ce que ça n'est pas l'écho que ça a eu par la suite.
Alors, arrêtons-nous quand même avec vous, Éric Chavroux, qui passez votre vie sur les réseaux sociaux et à surveiller les mots-clés sur Twitter. À s'arrêter quand même quelques instants sur ce fameux mot-clé, la « Bring back our girls », ramenez-nous nos filles, qui a connu entre le 23 avril et le 10 mai une incroyable propagation virale.
Oui, alors il y a une belle bataille en ligne déjà pour savoir effectivement à quel moment était né ce mot-clé. Il y a eu beaucoup cité l'initiative de Rahma Mosleh, c'est une réalisatrice et une mère de famille américaine, mais son initiative, elle est très contestée. En fait, la chaîne NBC, avec l'aide d'outils informatiques très pointus, a donc déterminé cette date du 23 avril et l'identité d'un avocat nigérian d'Abuja, Ibrahim Abdoulaye. C'est donc lui qui serait à l'origine de tout ça. Rahma Mosleh, elle va relayer tout ça efficacement depuis les États-Unis, à son profit, selon certains. Mais surtout, à mon avis, la date clé, c'est à partir du moment où Michelle Obama va elle aussi s'y mettre, le 7 mai, et donne une autre dimension encore à tout ça, avec un message conclu par sa signature personnelle, et puis un message qui est accompagné d'une photo, l'air grave, elle pose dans la salle de réception diplomatique de la Maison-Blanche, rien de moins, et elle a entre ses mains une page blanche sur laquelle est écrit le fameux mot-clé. Après vont suivre des femmes, des hommes aussi politiques du monde entier, Hillary Clinton, Christiane Taubira, Najat Vallaud-Belkacem, et toute une pléthore d'acteurs, chanteurs, journalistes, et bien sûr des milliers et des milliers d'anonymes, avec le risque de ce que je qualifierais de tout à l'ego, puisqu'on se demande s'il s'agit pour ces gens-là de réellement relayer la cause ou de se montrer
aux côtés de Michelle Obama.
De tenter d'exister et de finir effectivement dans un diaporama en ligne aux côtés de Michelle Obama. Toujours est-il que la campagne virale a eu pour résultat jusqu'ici plus de 3 300 000 tweets et plus de 120 000 photos partagées sur Instagram, comme si Twitter avait écrasé tous les autres médias. Alors c'est vrai, il les a devancés pendant deux semaines. Mais il ne faut pas oublier que la promotrice du mot-clé aux États-Unis, Rahma Mosleh, on y revient, elle a eu les honneurs d'ABC News le 7 mai et que c'est peut-être ça qui a déclenché le geste de Michelle Obama, lequel geste d'ailleurs se retrouve face aujourd'hui à une contre-campagne sur Twitter, puisque le mot-clé cette fois c'est « We can't bring back our dead ». Donc on ne peut pas rendre nos morts, ou comment des tweetos en fait font pression sur la Maison-Blanche maintenant pour tenter de stopper les attaques de drones au Pakistan, au Yémen ou en Somalie.
Alors, on va d'ailleurs se livrer une petite expérience pour l'émission. Là, je me suis connecté sur Twitter et j'ai tapé le mot-clé « Bring back our girls ». On va donc voir combien de tweets pendant la durée de l'émission tombent sur le sujet. C'est une expérience assez intéressante. Dans cette propagation virale, on dit qu'il y a aussi le rôle d'une agence de communication, voire de pub au Nigeria. C'est exact, ça ? C'est aussi une affaire de pub, Raoul Mbog, Sadi Kaba, vous savez ça ? On parle d'une agence nigériane qui a propagé ce mot-clé, etc. Enfin, comme dans une logique publicitaire.
Avec notamment des photos
photo.
Qui...
On va parler de cette fameuse photo tout à l'heure.
Oui.
Controversée,
on peut en parler. C'est
le mot qu'on puisse dire.
Un coup de pub, oui, c'est possible. De toute façon, c'est toujours un peu le problème dans ce type de campagne. Enfin, si on considère que c'est véritablement une campagne hein, qui s'est mise en marche. C'est toujours le même problème, parce qu'on ne sait jamais ce qui relève de... Oui, de la bonne foi, de l'engagement sincère ou de la récupération. Donc, il est possible, moi j'en sais rien, mais il est tout à fait possible effectivement que des structures comme celle-là, dont l'agence de communication de pub dont on parle, veuille effectivement se positionner sur le plan international, avec justement des dérives qui sont celles de justement de la photo dont on va parler. Mais c'est possible. Hein.
Vincent Hugeux.
Au demeurant, et quitte à encourir un procès en anachronisme, je me sens d'autant moins à la remorque de ce phénomène que nous ne faisons pas le même métier. Ce phénomène est un créateur et un amplificateur d'émotions. Émotions, une fois encore, légitimes. Mon métier de journaliste n'est pas de courir après cette névrose émotionnelle, dans le bon sens du terme, mais d'essayer d'apporter des éclairages, y compris sur ce qu'est Boko Haram, sur ce qu'est sa stratégie, sur ce que sont les travers ô combien désolants de l'armée nigériane dans sa tactique antiterroriste, tout ce qui en tient lieu, etc., etc.
Sauf que c'est quand même la propagation virale et l'entrée en scène de ces people qui a propulsé le sujet à la une des grands médias audiovisuels.
Et non.
Le résultat. Si, si. Attendez. Oui. On s'est livré une petite expérience. Moi, j'ai revu toutes les ouvertures des JT d'il y a 3 semaines. Donc, c'est simple. Il y a un mois, il n'y a rien. Puis, il commence à y avoir quelque chose quand il y a la vidéo de Boko Haram le 4 mai. C'est un sujet dans le cœur du journal, une petite minute. Et puis, le 10 mai, une fois qu'il y a eu Michelle Obama et qu'on sort, c'est l'ouverture du JT. Regardez.
Le journal de 20h, Laurent Delahousse.
Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une, où sont passées les 223 lycéennes kidnappées par les islamistes de Boko Haram au Nigeria? Les services de renseignement français, américains et britanniques sont arrivés sur place. L'affaire fait désormais l'objet d'une mobilisation, vous le verrez, planétaire. Que se passera-t-il demain?
Cette chronologie médiatique, Jean-Marie Charon, j'aimerais qu'on s'arrête quand même un moment avec vous, parce qu'on voit bien qu'il y a une chronologie décalée, que les grands networks ou les grands médias audiovisuels, ils sont à la remorque dans cette affaire.
Oui, il me semble que, si, pas pour mettre tout le monde d'accord, mais c'est vrai qu'il y a eu, l'information n'est pas passée inaperçue. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a été traitée de manière sobre, assez factuelle, dès qu'elle a été connue par les grands médias. Mais ce qu'on peut observer, c'est qu'on a l'impression qu'au niveau des rédactions en chef, au niveau de ceux qui font effectivement le choix des sujets, on n'en a pas vu, je dirais, toute la portée ou toute la dimension émotionnelle qui pouvait se produire, à tel point que, d'après ce que j'ai pu lire, des journalistes, par exemple, de CNN, ou un journaliste de CNN a pu insister sur le fait qu'il fallait absolument approfondir sur le sujet, etc., mais sans succès.
Mais il n'avait pas d'écho.
Voilà. De la même manière que sur un certain nombre de blogs de journalistes, on a vu qu'on relevait l'importance du phénomène. Alors ensuite, c'est vrai qu'on a cette impression de silence et que va intervenir ce phénomène des réseaux sociaux. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette chronologie, c'est aussi de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre... Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu énormément d'exactions de Boko Haram. C'est une espèce de litanie infernale. Je crois avoir lu sur Slate, alors je ne sais pas si vous validerez peut-être le chiffre, que des enlèvements de Boko Haram dans les dernières années d'enfants, c'est de l'ordre de 20 000. C'est ça? C'est un chiffre aussi élevé que ça.
À peu près 30 000, hein, d'ailleurs.
Oui, alors même encore plus élevé, sans que ça ait fait, effectivement, ça a eu le même impact. Alors, je pense que si on essaye de raisonner, pas en tant que journaliste, mais du point de vue du public, on se dit qu'effectivement, il y a des éléments spécifiques dans cette affaire. On a affaire à des enfants ou des adolescentes, on a affaire à des femmes, il y a un phénomène de nombre, quand même, plusieurs centaines. Et puis, il y a le fait que, effectivement, toutes ces personnes sont en butte à l'islam radical, ce qui n'intervient pas à n'importe quel moment. Alors, d'emblée, ça nous place dans un registre qu'évoquait Vincent tout à l'heure, le registre de l'émotion. D'emblée, on entre plutôt dans un traitement du type compassionnel, mais c'est vrai que ce registre-là va être probablement davantage facteur à ce qu'on pourrait appeler une diffusion virale, hein, via les réseaux sociaux, que ce que ça n'aurait été le cas, peut-être que si ça avait été traité par les spécialistes de la région dans les médias traditionnels. Mais il y a un effet qu'évoquait, je crois, Vincent, où j'ai cru le comprendre dans sa première prise de position, c'est que ça a un effet sur la manière dont les grands médias maintenant reviennent sur le sujet. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui est produit...
Ils le traitent par ce prisme-là.
Voilà. Ils reprennent les tweets...
C'est Dikaba, jeune Afrique.
Je m'interroge sur le point de savoir si ce n'est pas aussi la nature des médias qui explique un peu, en partie, le traitement. Nous, par exemple, comme nous sommes dans la presse magazine, nous avions programmé de parler de Boko Haram 5 ou 6 semaines avant que cet événement se produise. Donc, il y a un travail sur la durée qui est fait, qui n'a rien à voir avec le surjustement de cette question. Parce que pour nous, il ne s'agit pas simplement de parler aujourd'hui de Boko Haram et de l'oublier demain. Mais on a parlé de Boko Haram à partir du moment de la naissance, de l'évolution du mouvement, parce que l'enjeu aussi, c'est d'expliquer aux gens comment on en est arrivé là. Notre traitement n'est pas celui, voilà, puisque les réseaux sociaux en ont parlé, il faut que nous aussi, on se mette à en parler, parce que notre approche d'un magazine, c'est de prendre un peu, d'être un peu décalé, d'apporter les clés pour comprendre les événements, pas simplement de faire ça et puis de me taire.
Raoul Mbog, puis Vincent Hugeux, je voudrais qu'on réagisse aussi à ce qu'a dit Jean-Marie Charon, hein, c'est-à-dire cette logique des réseaux sociaux avec le mix compassionnel qui favorise les réseaux sociaux et cette transmission horizontale plutôt que la logique verticale des médias.
Oui, je vais y arriver, mais pour qu'on soit tous d'accord, bien évidemment que tous les médias, depuis que Boko Haram fait parler de Boko Haram, tous les médias en parlent. Que ce soit en Afrique, en Occident, enfin en Europe, tout le monde en parle, avec des analyses très bien élaborées. Simplement, la question, à mon sens, c'est à partir de cet enlèvement des jeunes filles, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la presse a réagi? Est-ce qu'elle a été à la remorque, justement, du mouvement Bring Back Our Girls ou pas? Moi, je continue de penser que oui. Parce que, comme je le disais en début d'émission, bien sûr qu'on a toujours parlé de Boko Haram de façon factuelle, de façon plus analytique. On l'a toujours fait. Ces derniers temps, on l'a souvent fait de façon factuelle. Parce que c'est répétitif. En tout cas, vu d'ici. Et c'est ce qui s'est passé lorsque les jeunes filles ont été enlevées. Maintenant, le bring back our, j'allais dire,
ramenez-nous nos filles, on va le faire en français, ça sera aussi
simple. Voilà, c'est ça, ce sera tout aussi simple. Donc, effectivement, il y a une... Le fait que les people se soient emparés
de cette affaire,
voilà, ça a forcément amené les médias à revoir la façon dont elles amènent le sujet. On l'a vu avec les exemples que vous avez donné, des JT par exemple, et des médias mainstream aujourd'hui.
Du coup, c'est quand même propulsé en ouverture des journaux.
Bien entendu.
Alors, d'abord,
ça n'enlève rien à votre travail de spécialiste de l'Afrique, qui travaille depuis longtemps sur Boko Haram. Ce que je veux dire, c'est que les grands médias, eux, ils réagissent sur le compassionnel.
Quoi. Et d'abord, Jean-Marc, mea culpa, mon objection tout à l'heure était prématurée, c'était avant que vous formuliez le mot audiovisuel, grand média, etc. Audiovisuel, c'est parfaitement exact. J'observe deux choses, s'agissant notamment de la résonance française. Il y a, à mon sens, deux facteurs qui font de ce kidnapping de masse une histoire française. C'est le Trocadéro, qui est aussi, je crois, un moment... avec la visibilité soudaine de deux ex-premières dames,
Valérie
et tout ce que ça charrie comme image. Et puis il y a le fait que la France devient une actrice, pour preuve le sommet qui s'ouvre dans quelques heures à Paris. Il est quand même assez singulier qu'un pays géant d'Afrique, dont la tradition coloniale, si je puis dire, est britannique, fasse appel à François Hollande, auréolé, bien entendu, de ses succès relatifs dans le Sahel et en République centrafricaine, pour organiser ce type de rendez-vous. Mais un point encore, Ce qui peut éventuellement m'effarer, ce n'est pas du tout, bien au contraire, l'ampleur de cette réaction, c'est que lorsque, et je reviens à ce que Jean-Marie mentionnait tout à l'heure, lorsque, voilà, 2 mois, 6 mois, 15 mois, des commandos de Boko Haram s'introduisent nuitamment sur des campus, dans des dortoirs, et massacrent des enfants, des adolescents, des étudiants par dizaines, rien ne bouge, et surtout pas les people dont on parle. Parce qu'il n'y a pas eu ce processus d'identification. Our girls, nos filles. Bien sûr, j'ai une fille de 14 ans. Vous croyez que je ne suis pas touchée par ce qui arrive à celle-là ?
Est-ce qu'il y a un paramètre féminin dans cette affaire ? Mariette Darigrand, qui est la sémiologue de l'émission, qui vient régulièrement, parfois c'est Jean-Marie Charon, parfois c'est Mariette Darigrand ou Isabelle Vermasson, elle me disait par courriel cette semaine, il y a un référent mythologique à l'histoire de l'enlèvement des Sabines à Rome, enfin bon, voilà, Romulus, etc. Tout le monde connaît plus ou moins l'histoire. Est-ce que ça joue dans notre sensibilisation au sujet, à votre avis ?
Tous les facteurs se réunissent dans l'équation. Il y a la folie réelle ou supposée du gourou halluciné. Il y a les filles mineures, contraintes, et il y a le djihadisme dans son acception la plus féroce. Tout est là.
Les ingrédients, c'est dit Kaba.
Je pense qu'à partir du moment où il y a eu une revendication formelle par Boko Haram et qu'on a vu le gourou de la secte Aboubakar Shekau et le discours qu'il a tenu, surtout le discours qu'il a tenu pour ceux qui comprennent Aoussa, le passage où
Aoussa,
il dit
la langue locale du Nigeria.
Voilà. Le passage où il dit, même si elles ont 9 ans, je vais les vendre, je vais les marier, a suscité une forte émotion parmi les parents. La première réaction de Obama, c'est de dire, j'imagine que ces enfants auraient pu être les miens. Voilà. Donc, il y a ces événements qui se sont enchevêtrés et qui expliquent un peu cette vague, cette mobilisation en faveur de la libération de ces personnes enlevées.
Alors, ça nous renvoie à la question des images. Et là, je me tourne à nouveau vers Eric Chavreau, puisque chaque semaine, vous décryptez aussi les images clés. Et là, on en a plusieurs qui se mélangent, qui se répondent, qui se complètent. La première, Raoul Mbog y a fait allusion tout à l'heure. Quand même, c'est cette image qui est assez troublante, parce que c'est une image fausse, c'est une image détournée par une agence de communication, pour les besoins de la cause, certes. Mais enfin, elle a fait les médias aidants le tour de la planète, Eric.
Oui, c'est une image choc hein, d'une jeune fille en pleurs qui a énormément été partagée par des people là aussi, notamment la chanteuse Mary J. Blige, oui. Une chanteuse américaine, qui cumule presque 5 millions d'abonnés sur Twitter. Alors, faut dire que la photo, elle est très esthétique. Ça évoque d'ailleurs Man Ray. On voit ce visage de cette,
très gros plan.
De cette jeune fille en gros plan qui cale son visage entre ses mains sur un rebord en métal. Le problème, c'est que l'alarme est un montage. Donc, semble-t-il, venant d'une agence de communication de web nigériane. Et puis, que la photo, elle date de 2011.
Plutôt, beaucoup plus tôt.
2001, je crois, 2002. Et surtout, Guinée-Bissau, c'est ça. Voilà, aucun rapport avec le Nigeria.
À 100 km de là.
La photo a été prise par une photojournaliste qui s'appelle Ami Vital en 2000, dans le cadre d'un projet qu'elle voulait. En réalité, il travaillait sur une idée de montrer l'Afrique autrement que celle dont on parle tous les jours dans les médias, c'est-à-dire la guerre, etc. Et donc, elle a fait ce travail-là en 2000, en Guinée-Bissau, c'est-à-dire quand même à plus de 1000 km
du Nigeria. Aucun rapport avec le Nigeria.
Absolument aucun rapport. Et donc la photo a été volée. Donc elle a été utilisée sans permission et détournée de son objectif, donc de son but initial et retouchée.
Et retouchée avec la larme.
Voilà.
Ça fait beaucoup quand même.
C'est ce dont parlait justement Vincent. C'est-à-dire qu'on s'embarque dans un. Pris par cette sorte d'hystérie, on en vient à des dérapages comme celui-là qui ne sont pas forcément ceux des personnes qui ont une déontologie, une éthique.
Et alors, juste pour finir sur cette image, donc la photographe en question, Ami Vital, s'est battue pour essayer de stopper tout ça. C'était parti tellement vite qu'elle est peine perdue. Les seuls, semble-t-il, qui ont fait marche arrière...
Retirer la photo, c'est la BBC, je crois.
C'est la BBC sur leur site.
Il y a une deuxième image choc, forcément, et là aussi, on l'évoquait très brièvement par allusion tout à l'heure. Alors, pour le coup, c'est l'image bien réelle, cette fois, des lycéennes enlevées. Vidéo transmise par Boko Haram.
Par Boko Haram.
Et là, à nouveau, deuxième image choc.
Donc ça, c'est lundi dernier. Par parenthèse importante, des images de bien meilleure qualité que celles auxquelles nous avait habitués Boko Haram. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas eu un effort un peu machiavélique pour que ça amplifie la diffusion de ces images dans le monde entier. On découvre une centaine de ces jeunes femmes totalement voilées, en noir ou en gris, les visages fermés, qui prient dans un lieu indéterminé. La plupart sont assises à même le sol, collées à certaines qui, elles, sont debout dans le fond. Et puis, il y en a une d'elles, tête baissée, qui se dressent et qui s'adressent à la caméra et qui confient que, soi-disant, elles sont bien traitées, un peu comme un spectre, en fait.
Et puis, il y a la troisième image choc, en face, hein, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire, là aussi, vous en parliez, Sidi Kaba, tout à l'heure, le méchant, si je puis résumer ça comme ça, le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, toujours dans cette vidéo de revendication. Donc justement, on l'entend là en langue locale à Oussa. Après, il parle en anglais un peu plus loin dans la vidéo. Hein, donc il justifie l'enlèvement des lycéennes au nom de la lutte contre l'éducation occidentale. Puis après, il dit que soit on est avec lui, là il se met à parler en anglais ensuite, et soit on est avec lui, soit on est avec Obama, Hollande et Abraham Lincoln. Là aussi, image forcément choc, Eric.
Oui, il s'adresse au monde. Et alors ce qui est vraiment choquant, enfin effarant, c'est qu'il est aussi hilar que menaçant. Il est en tenue de combat, il a un fusil d'assaut qui est posé comme ça sur son épaule. Il n'hésite pas à sourire, limite un clin d'œil. Et puis, d'un coup, il hausse le ton et il devient vindicatif, il dresse le poing. Alors, il faut dire que lui, il raffole de ses vidéos. Deux fois, notamment, il s'en est servi pour prouver qu'il était bien vivant par rapport aux autorités nigérianes. Et peu importe si les images sont floues, si le son est médiocre, comme dans la première vidéo de revendication, ou même aussi si parfois il semble complètement déconnecté de l'actualité parce qu'il s'adresse à Margaret Thatcher ou à Jean-Paul II.
Alors, il menace 5 mois après sa mort.
Voilà.
Et il menace Jean-Paul II 8 ans après son trépas.
Certains disent que c'est parce qu'il abuse un peu de la marijuana. Bon, je ne sais pas.
Un point très important par rapport au personnage en question. Je vous signale qu'il y a un universitaire américain de la Jamestown University qui s'appelle Jacob Zen, qui affirme, et il l'a fait dans un entretien accordé à Radio France Internationale jeudi matin, que le Shekau de la deuxième vidéo n'est pas le même que le Shekau de la première vidéo, et il soutient que c'est une sorte de modus operandi classique et que plusieurs leaders de Boko Haram apparaissent au fil des vidéos sous ce nom. Et je souhaitais savoir si cette hypothèse-là avait fait florès sur les réseaux sociaux ou pas du tout.
Ben moi, je ne l'ai pas vu plus développé que ça. Mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est qu'il semble un dangereux Ben Laden d'opérette. Hein, on pourrait un peu le qualifier comme ça. Et que malgré tous ces problèmes techniques, le message, lui, il reste bien clair. Et,
ça pose quand même une question, et je vous la repose à tous les trois, hein, Vincent Hugeux, Raoul Mbog, Sidi Kaba. C'est ces différentes images, aussi bien l'image, on va dire, truquée de la jeune femme de Guinée-Bissau, les images des jeunes filles enlevées, les images du leader de Boko Haram. Il faut les diffuser ou il ne faut pas les diffuser? Qu'est-ce qu'on fait?
Ça, c'est toujours le. Oui, Vincent, vous vouliez commencer?
Non, peut-être. Moi, je peux hasarder une réponse là-dessus. Les diffuser, oui, parce qu'elles sont un élément constitutif du système d'information, mais certainement pas les diffuser brutes de décoffrage. Les diffuser avec contextualisation, décryptage, explication, y compris des procédés narratifs qui sont utilisés, par exemple, par les mouvements djihadistes pour obtenir le maximum d'impact émotionnel dans les pays visés.
C'est très compliqué de ne pas les diffuser. C'est absolument compliqué, parce que d'un côté, on a ce devoir, cette nécessité d'informer, mais effectivement, comme dit Vincent, il faut contextualiser, il faut expliquer. Or, il me semble que justement que c'est cette analyse, c'est cet effort d'explication qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait, les médias occidentaux, les grands médias, comme vous dites, se sont emparés de cette histoire de Bring Back Our Girls sans pour autant prendre le temps d'expliquer à la fois le contexte du Nigeria, cette histoire de Boko Haram, qu'est-ce que c'est exactement? On parle d'Aboubakar Shekau, qu'est-ce que c'est ce type-là? Très peu explique, et en revanche, on est dans cette émotion, on accompagne l'émotion qui est notamment porté par les people, comme si ça suffisait. Donc oui, effectivement, il faut diffuser les images, mais il faut vraiment faire cet effort d'explication. Mais encore faut-il en avoir tous les ressorts.
De tout ça, on va parler justement aussi dans un instant. Les ambiguïtés, les contretemps, les bizarreries du traitement médiatique de l'affaire des lycéennes enlevées au Nigeria ce matin, dans le secret des sources, avec Sidi Kaba de Jeune Afrique, Vincent Hugeux de L'Express et Raoul Mbog de Slate. Et bien sûr, vous commentez, vous critiquez, vous complétez sur franceculture.fr. Dans un instant, on prolonge donc cette réflexion en s'interrogeant plus largement sur les lacunes peut-être de la couverture journalistique de la situation au Nigeria. Jette un petit coup d'œil à Twitter entre temps. Alors depuis le début de l'émission, depuis tout à l'heure, hein, 398 nouveaux tweets avec le mot-clé Bring Back Our Girls. Donc on doit tourner à peu près à un tweet toutes les 2 secondes. Ça donne une petite idée. C'est l'une des nombreuses chansons lancées sur le net ces derniers jours. Avec ce titre, Bring Back Our Girls, autre facette de cette mobilisation virale, c'est l'un des chanteurs du Ghana, Samini. Breaking news. CNN, BBC and every cable news channel has it on the screens. People searching all about for all these missing daughters, horrible things in daily news. Debaters with many views. Some they make sense, the rest of them are crazy fools. Solve the main issues and stop the plenty coups. God save Africa, save the universe. God save the universe. Le Ghanéen Samini énumérant ensuite les prénoms des lycéennes qui sont parties à l'école et qui n'en sont pas revenues. Vincent Hugeux, Sédi Kaba, Raoul Mbog, dans quelle mesure, c'est ce que disait Raoul Mbog à l'instant, ce traitement compassionnel du sujet dans un monde de médias ne les conduit pas à oublier de traiter correctement le fond du sujet. Donc la situation au Nigeria, évidemment, encore une fois, là je ne parle pas de vos articles à vous qui connaissez le sujet, mais bien de la tonalité médiatique dominante.
Ça Vincent relève Hugeux. De notre souveraineté éditoriale. Notre devoir de journaliste est de résister au tsunami de l'émotion. Et encore une fois, dont je ne conteste ni la sincérité, ni la puissance. Mais là n'est pas la problématique qui est la nôtre. Donc ce que nous avons à faire dans nos rédactions, c'est de dire précisément, si on peut apporter quelque chose à notre lectorat, à nos auditeurs, c'est des clés d'explication, de compréhension ou des hypothèses. Car il va de soi que sur des mouvements de cette nature, il y a assez peu de certitudes. Ce que nous devons d'ailleurs dire aussi à nos lecteurs. Et donc, je veux dire, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, ou en tout cas les moins mauvaises. Et c'est pour ça, on a très classiquement, Jeune Afrique l'a fait aussi, Slate l'a fait, essayer de dire qui est ce type, d'où il vient, quelle est sa trajectoire, qu'est-ce qui a permis à Boko Haram de conquérir une forme de base sociale, ce qui laisse interdit une bonne partie du public occidental, etc. etc.
Et dire que Sédi Kaba,
je pense
oui,
que ce que Vincent dit est tout à fait juste et pertinent. Moi, en tant qu'observateur, souvent, on se retrouve à la fois comme producteur d'information, mais comme son moteur d'information. Quand je regarde souvent la façon dont cette actualité est traitée, ça me surprend. Parce que ça fait longtemps que je travaille dessus, parce que je connais la région, parce que moi-même je suis de frontalier, je suis du Niger, je suis à 100 km de Maïdougouri, qui est l'épicentre de cette affaire. Quand je vois la simplification qu'il y a dans les médias, le traitement à la limite caricatural, ça me révolte. Donc il y a aujourd'hui un travail de fond à faire pour expliquer Boko Haram. J'ai entendu même dire Boko Haram, ça veut dire que Boko c'est Bouk. Alors que Boko n'a rien à voir avec Boko. Boko, c'est en langue Haoussa, Boko, c'est l'école.
L'école.
Haram, c'est de l'arabe qui a été emprunté à Haoussa, qui veut dire le péché, qui est le contraire de halal. Donc, je vois souvent sur des médias qui sont assez crédibles ici, expliquer que Boko Haram, en fait, c'est que l'école, le livre est interdit, etc., etc. Donc, il y a des simplifications aujourd'hui. Et notre travail, c'est de faire un travail d'information qui permette aux gens, avec toute la modestie qu'il y a, d'avoir des clés pour comprendre, pour comprendre comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, comment ce mouvement qui existe depuis 2002 en est arrivé à cette situation, qu'est-ce qui explique que Boko Haram pousse financer encore des actions, qu'est-ce qui explique que le gouvernement du Nigeria soit incapable d'éradiquer. Donc il y a des choses.
C'est ce que j'allais vous dire, c'est que derrière l'arbre des lycéennes enlevées, il y a quand même une forêt de sujets absolument passionnants. Sur les inégalités au Nigeria, sur la pauvreté, sur le pétrole, sur le rôle des Occidentaux dans cette affaire qui n'est pas nécessairement très très nette, sur le rôle des monarchies pétrolières par rapport à Boko Haram. C'est une mine d'or potentiellement, non, de sujets. Non,
mais c'en est une que nous n'avons pas fini d'explorer. Mais il faut dire aussi que dans les grands médias, y compris les télévisions d'information continue, vous avez vu apparaître un chercheur qui s'appelle Marc-Antoine Pérouse de Monclos, qui est de très loin le meilleur spécialiste du Nigeria et depuis longtemps. Et j'ai eu le plaisir un soir et la surprise de participer en plateau à un sujet de 9 minutes dans une télé dont le format et le biorhythme habituel est le sujet de 2 minutes 37 secondes, avec de nombreuses interventions de ce chercheur qui fait autorité. Donc tout n'est pas non plus catastrophique.
Donc j'allais vous poser la question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des sources françaises, on va parler des sources africaines après, mais est-ce qu'il y a des sources françaises, experts, ONG, diplomates, services, que sais-je, qui permettent d'obtenir des informations intéressantes et fiables sur le Nigeria?
Vincent parlait à l'instant de Marc-Antoine de Monclos, dont la connaissance du Nigeria et de cette actualité n'est pas sujette à caution, mais c'est une actualité qui évolue. Et on a beau être chercheur, si on n'est pas allé au contact du terrain, si on ne connaît pas les langues locales, parce que entre la traduction qui est faite de ce que Chekao a dit et ce qu'il a dit dans la langue locale, la perception n'est pas la même. Si vous comprenez la langue, le niveau de cynisme de ce qu'il dit dans la langue locale est un peu affaibli lorsqu'on le traduit en français. Donc il y a des éléments, il y a des choses, et ça rend aujourd'hui, compte tenu du contexte du Nigeria, ça rend justement difficile l'existence de sources non nigérianes. Parce que, aujourd'hui, personne ne s'aventure à aller sur ce terrain-là. On peut être enlevé, etc. Les rédactions, aujourd'hui, envoient des gens plutôt au Niger voisin, à côté de là où ça se passe, ou au Tchad voisin, ou à Lagos, ce qui nous permet d'avoir une remontée d'informations pas suffisante.
La difficulté, c'est de pouvoir, couvrir justement le Nigeria, en tout cas couvrir le nord-est du Nigeria, le nord du Nigeria, avec toute la situation qu'a provoqué Boko Haram. Donc c'est toujours le même problème de couvrir les situations des zones de conflit. Alors qu'on a déjà, il y a le problème de moyens dont souffrent les médias pour pouvoir envoyer des journalistes sur place. Sur place même, c'est très compliqué de pouvoir travailler parce que le Nigeria,
Radio lui-même. France Internationale et l'AFP qui ont des correspondants permanents sur place.
Même ces correspondants-là ne sont pas dans le nord du Nigeria.
Être
ils sont à Lagos
au sud et être qu'est-ce que vous voulez faire au nord, c'est pas du tout la même
voilà,
chose.
Voilà, que voulez-vous faire à partir de Lagos? Enfin, c'est quand même, je dis pas qu'ils sont à l'abri, bien au contraire. Mais véritablement, on ne peut pas mieux prendre l'ampleur de la situation. En tout cas, avoir des éléments pour pouvoir expliquer, mettre en perspective justement toute la situation à partir de Lagos ou à partir de Nigeria, ou encore moins à partir de Paris.
J'ai envie de dire presque, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-Marie Charon, mais qu'on est un peu en plus hors zone culturellement pour les médias français. C'est-à-dire que je crois que c'est Vincent Jeux qui l'évoquait tout à l'heure, hein. On est dans l'univers britannique anglo-saxon. Enfin, on est un peu hors zone pour les médias français.
Oui, tout à fait. Moi, je crois que ça m'a beaucoup frappé de voir, en essayant de recenser quels étaient les médias présents, de voir qu'effectivement RFI est là, une journaliste. L'AFP a 11 journalistes, essentiellement anglophone, c'est-à-dire tourné vers son fil anglophone, et une présence essentiellement, d'ailleurs le chef de bureau est lui-même anglophone, et je crois qu'il n'y a qu'un francophone dans le bureau, et l'essentiel de la couverture, effectivement, est réalisé par des Nigérians. Donc c'est vrai qu'on est certainement à contre-pied, et le fait que les réseaux sociaux, alors là, aient joué un rôle assez important, et qu'on ait une espèce de dynamique qui part du Nigeria et qui est repris très largement par des pays anglophones, il est certain qu'on s'est certainement retrouvé, en tout cas les grands médias français, sans grandes sources habituelles sur cette région, se sont certainement retrouvés assez, je dirais, à la remorque de ce qui finalement émergeait de cette campagne.
Et quand RFI a un bureau, RFI a le bureau, son service Hausa qui est au Nigeria. Oui, le service Hausa du Nigeria n'est pas à Paris, il est au Nigeria, oui, à Lagos.
Quand on est journaliste français, grand reporter comme vous, Vincent Hugeux, et qu'on connaît le Nigeria, ce qui est votre cas, est-ce que c'est possible d'avoir des sources vraiment sur place, c'est-à-dire aussi bien du côté des terroristes potentiellement, du côté du gouvernement nigérian, des ONG,
comment on travaille? L'expérience qui a été la mienne en 2012, juste à une période où il y avait une vague d'attentats ciblés de Boko Haram, notamment sur des édifices religieux, mais toujours aussi sur le poste de police. La plus grande difficulté que j'ai éprouvée, c'était d'obtenir le visa nigérian, ici à Paris. Ensuite, sur place, passage obligé, grand classique du genre, par Abuja, autorité fédérale, pour obtenir le permis qui me permettra de monter au nord. Ça se passe extrêmement bien. En une demi-heure, avec des dames qui m'accueillent, qui disent « c'est quand même terrible ce qui se passe là-haut, faites attention ». Et puis sur place, il se trouve que grâce notamment à l'AFP et à la presse locale, j'avais pu contracter avec un fixeur, sans lequel, comme d'habitude, j'aurais fait à peu près 10% de ce que j'ai pu faire. Et j'étais seul et j'ai pu bouger. Et j'ai pu aussi entrer en contact avec des universitaires nigérians qui travaillent sur le phénomène islamiste radical, mais pas seulement depuis 10 ans, parce qu'il y a eu des épisodes dans les décennies, voire les siècles antérieurs. Et enfin, je vais le dire très simplement, je ne suis pas parvenu à entrer en contact avec des membres actifs de Boko Haram, en tout cas qui s'assumaient comme tels, mais avec d'anciens membres, oui, ou avec des gens réputés, avec l'aide, là encore, et le décryptage d'un fixeur, comme, disons, sympathisants de la galaxie djihadiste nigériane. Donc, voilà, je ne prétends pas que ça nous donne l'alpha et l'oméga de toute cette dramaturgie, mais on peut accéder à certaines infos.
Est-ce qu'il y a une capacité quand même supérieure ou du moins différente pour le journaliste africain, Sedi Kaba, par rapport au journaliste occidental sur un terrain comme celui-là?
Il y a d'abord la sociologie du terrain qui permet à un journaliste africain comme moi, de passer plus facilement, parlant la langue locale et la couleur locale, de passer plus facilement que si c'était un journaliste occidental. Ça, c'est un fait indiscutable. Il y a aussi la connaissance du terrain, la connaissance, les réseaux familiaux. Moi, j'ai une partie de ma famille au Nigeria. Si je veux contacter des gens, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi le fait qu'on peut s'appuyer, en l'occurrence, et je crois que dans ces situations de conflit, la solidarité confraternelle joue souvent. On peut s'appuyer sur des confrères locaux de la BBC, sur des confrères locaux d'autres journaux. Et ça, je crois que c'est une des valeurs de notre métier. On peut s'appuyer sur ces confrères-là pour avoir des tuyaux, pour pouvoir remonter. Et comme a dit Vincent, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, vu de loin, une expertise locale sur ce mouvement qui existe. Et il y a des universitaires nigériens qui travaillent, moi-même j'en connais, qui travaillent sur cette question de Boko Haram, qui n'ont pas aujourd'hui la réputation médiatique que leurs collègues occidentaux, mais qui ont une expertise, qui connaissent bien le terrain et qui peuvent servir de source si jamais on arrive à accéder à eux.
Il y a un dernier aspect du sujet qu'il nous faut aborder. Forcément, ce sont quand même les risques de l'emballement médiatique. Autrement dit, est-ce que cet emballement ne risque pas d'être contre-productif? Le premier élément, malheureusement classique désormais, c'est que la médiatisation fait le jeu des terroristes. Enfin, on connaît ça très bien, elle assure leur communication. On est encore en présence de ce cas-là, avec cette histoire-là, quand même, Vincent Hugeux.
Quand vous tentez de décrypter les vidéos récentes, mais aussi les précédentes, vous voyez qu'il y a, même s'il semble être en permanence ou à peu près sous acide, chez Aboubakar Shekau, donc le gourou de la secte, il y a une pulsion d'ordre narcissique. Il se met en scène, il est dans la provocation, il est dans le goguenard, il est dans le défi, y compris, comme on le disait tout à l'heure, et jusqu'à une forme de dérision, dans le défi aux puissants de ce monde. Donc, pour lui, cette sorte de pilonnage médiatique est la meilleure nouvelle de l'année, dont il s'aperçoit aussi d'ailleurs que cette médaille a son revers, puisque c'est aussi cela qui va avoir pour effet mécanique d'accroître sur lui la pression et peut-être de le contraindre, pourvu qu'il y ait dans son esprit malade un chouïa de rationalité, à négocier ou à lâcher du lest. Donc, bien sûr, moi, très vite, je me suis dit « aïe, légitime, mais casse-pipe », parce qu'il y a très clairement des effets pervers.
Et puis ça fait monter la valeur des otages, enfin, on connaît ces mécaniques, on les connaît bien.
Exactement, c'est toute cette mécanique que l'on a pu connaître en d'autres circonstances, mais avec des effectifs moindres, si je puis me permettre, et aussi sans, je dirais, cette équation dont on parlait tout à l'heure, fille, mineure, religion, djihadisme, identification.
Autre risque possible, c'est de contraindre les dirigeants politiques occidentaux à peut-être réagir trop vite ou surréagir. Je voudrais qu'on écoute David Cameron.
We agreed to send out a team that includes some counter-terrorism and intelligence experts to work alongside the bigger American team that's going out there.
On entend donc le Premier ministre britannique disant dimanche dernier, c'était dimanche dernier sur le BBC, qu'il va envoyer, vous l'entendiez, des experts militaires du contre-terrorisme aux côtés des plus grandes équipes américaines. Cet après-midi, c'est donc François Hollande qui se retrouve lui aussi en première ligne. Est-ce que cette médiatisation forte ne peut pas contraindre aussi les politiques sous pression médiatique? On connaît bien ce mécanisme là aussi, à envisager une intervention militaire par exemple qui serait extrêmement risquée. Sedi Kaba et Raoul Mbom.
Absolument, à partir du moment où l'opinion publique s'est saisie, où il y a une mobilisation à la fois de la société civile, des intellectuels, des cultures, les pouvoirs publics peuvent se sentir en devoir. On assiste même quasiment à une sorte de concurrence à un moment. Les États-Unis ont offert leurs services, ont envoyé des drones, la Grande-Bretagne,
la Chine, Israël.
Donc cela a créé même une sorte de concurrence qui, si elle n'est pas surveillée, si on ne crée pas une mutualisation des moyens qui sont offerts au Nigeria, on va aller vers des aides concurrentes et peut-être qui peuvent avoir une autre efficacité que celle dont on
tout le monde veut parler. Raoul Mbok, Slade, Jean-Marie Charon et Vincent Jeu.
On assiste à une sorte de festival de bonnes
course à l'échalote, un peu. Hein.
Voilà, un peu. D'un côté, oui, c'est pourquoi pas, tant mieux. Simplement, il y a un risque, moi, majeur, à mon sens. C'est-à-dire que une intervention militaire, par exemple, elle est forcément, elle est risquée. elle est risquée parce qu'on peut, on peut arriver à une catastrophe qu'on n'imagine même pas. De notre côté, effectivement, les politiques peuvent être suffisamment d'une aide suffisante, pour, enfin considérable, pour amener à négocier avec, avec Boko Haram. Le problème, c'est que ce serait une négociation, elle serait controversée, et donc on ne sait pas non plus à quoi on arriverait. Donc dans tous les cas, si, si tout ces, ce concert de bonnes intentions n'est pas coordonné,
ça peut être totalement contre-productif.
Voilà, ça peut être contre-productif.
Jean-Marie Charon, puis
oui,
Vincent Hugues.
Oui, moi ce qui me frappe beaucoup dans la, la configuration qui apparaît sur Twitter, vous avez parlé des people. Moi ce qui me paraît surtout, c'est qu'on a une espèce de mouvement social qui se crée. Bon, on a des pétitions, on a hier il y avait des rassemblements à Besançon, à Angoulême, enfin etc. On a l'impression qu'il y a une espèce de mobilisation de, je dirais, alors là on est au niveau français, mais je pense qu'on retrouve dans d'autres pays. Et là effectivement, je pense que les politiques sont sans doute peut-être plus amenés à écouter cette espèce de sensibilité de la société profonde. Et effectivement, moi, ce que je crains, c'est exactement ce que vous indiquiez. Il y a eu aussi toute cette suggestion que, via les drones, via les services spéciaux, on pouvait régler les problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu une tentation de faire un court-circuit à coup d'opérations de force, sans essentiellement de gestication, quoi.
Vincent Hugues. Une
question très simple. Le sommet de cet après-midi aurait-il eu lieu sans cette viralité? La réponse dans la question, c'est non. Parce qu'en fait, au fond, on organise une opération de prévention après le désastre. Bien. Deuxième remarque très rapide. Quand vous poussez dans leur retranchement les politiques comme les militaires, vous leur dites, dans un monde de lait et de miel, tout fonctionne merveilleusement. Les drones, les satellites, les agents de surveillance font leur office. On sait où sont tout ou partie de ces jeunes filles, combien de militants et de combattants de Boko Haram les gardent, etc. Et à partir de là, on fait quoi? Et je me suis livré à cet exercice dans un briefing off de l'Élysée. Il y en a eu un jeudi. Il y a eu hier matin le même type de briefing chez les militaires. Et c'est la même perplexité et les mêmes réponses évasives. On ne va pas envoyer les Nigérians dont on connaît à la fois l'impuissance et la brutalité. Et on ne va pas commettre des troupes sur place. Et là, on vous dit, ah oui, mais on va modifier le rapport de force pour créer de possibles négociations. Mais des négociations, il y en a depuis des années. J'ai rencontré il y a 2 ans dans le nord du Nigeria une sénatrice qui avait été mandatée. Goodluck Jonathan lui-même, le président du Nigeria, a parlé d'amnistie. Donc je veux dire, voilà, à partir de là, on fait quoi? Et on y est parce qu'il y a eu tout ce vent pour nous pousser dans le dos.
Exceptionnellement, cette semaine, pas de clin d'œil de Yacine Bouzard et Nathalie Lopez pour boucler ce secret des sources. Mais pour finir, une autre illustration de la mobilisation People virale. Autre chanson lancée ces derniers jours aux États-Unis, cette fois par Ada Snoop et Alicia Keys. Et là encore, ça s'appelle, devinez, Bring Back Our Girls.
Check it. It's painful and heartbroken. When I look up in the sky, then my tears dropping. I see families in pain, wanna get their daughters. Bomb blasting in the nation really got me worried. Why? Yeah, it's the love. Where is the peace, dear Lord? We need your guidance from above, dear Lord. Help us bring back our girls safely. We gotta keep the faith alive till they come back.
Bring back our girls. Bring back our girls.
Bring back our girls.
Bring back our girls. Tiens, un dernier coup d'œil au compte Twitter. Donc en 45 minutes, grosso modo, depuis le début de l'émission, pas moins de 527 nouveaux tweets avec le mot dièse Bring back our girls. Les étrangetés médiatiques sur Boko Haram et les lycéennes enlevées au Nigeria. Vous réécoutez, vous téléchargez, vous critiquez, vous commentez comme toujours sur franceculture.fr. Cédric Kaba, Vincent Hugues, Raoul Mbok, Jean-Marie Charon, Éric Chavroux étaient ce matin dans Le Secret des Sources. Vincent Hugues, je signale donc votre dernier livre qui est paru chez Perrin, c'est Reine d'Afrique. C'était un plateau assez rare dans Le Secret ce matin, très masculin. Néanmoins, merci à tous. Dans quelques minutes après le journal d'Anne-Laure Chouin, réplique sur France Culture, le monde des bobos. Alain Finkielkraut reçoit Jean-Michel Normand et notre confrère de France Inter, Thomas Legrand. Prenez soin de vous.
Mon métier de journaliste n'est pas de courir après cette névrose émotionnelle, mais d'essayer d'apporter des éclairages, y compris sur ce qu'est Boko Haram, sur ce que sont les travers de l'armée nigériane dans sa tactique antiterroriste, tout ce qui en tient lieu, etc., etc.
quand je vois la simplification qu'il y a dans les médias, le traitement à la limite caricatural, ça me révolte. Donc il y a aujourd'hui un travail de fond à faire. Boko Haram, j'ai entendu même dire Boko Haram, ça veut dire que Boko c'est Bouk. Alors que Boko n'a rien à voir avec Bouk.
Si parfois ils semblent complètement déconnectés de l'actualité parce qu'ils s'adressent à Margaret Thatcher ou à Jean-Paul II.
Alors il a menacé 5 mois après sa mort.
Certains disent que c'est parce qu'il abuse un peu de la marijuana. Bon, je sais pas.
Oh, pas que.